Cube Radio.
La zone payante. Bienvenue dans votre émission de football de la zone payante. Mathieu Boivin à l'animation avec les comparses habituels. Stéphane Cadorette, Journal de Québec, spécialiste NFL. Ça va, mon Steph?
Je me sens d'attaque, mais d'humeur plus contrôlée que Miles Garrett.
Ouais, c'est pas dur à battre, mais bonne nouvelle, comme ça on devra sortir vivant du boot. John C. qui est avec nous, Jean Carrier, spécialiste fantasy, ex-analyste du Rouge et Or Football. En forme, Johnny?
Oui, très paisible, mais je vous garantis qu'il n'y aura pas d'explosion de ma part. Donc, tout le monde est en sécurité ici, présentement.
Tout le monde est en sécurité. Par contre, il n'y avait pas grand monde en sécurité en fin de match. Le match du jeu d'histoire où Miles Garrett, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, méga bra, arrache le casse de Rudolph, le carrière des Steelers, il lui garoche un solide coup sur la tête. Ma première question, je regarde Steph, faut-tu envoyer ce gars-là en suspension jusqu'à la fin de l'année?
Ben, écoute, là, faut que tu prennes en considération le nombre de matchs où on est rendu. Donc, la réponse, c'est oui.
Parce qu'il reste six matchs.
Moi, je pense que c'est une suspension qui serait juste dans son cas, parce qu'il faut voir les images.
Hey, ça n'a aucun bon sens. Quel coup de cochon, là.
Non, on va résumer ça clairement. Honnêtement, c'est un cabochon, là. Et puis, c'est pas un joueur comme ça d'habitude. C'est ça qui me dérange.
C'est ça qui nous surprend, là. Il joue physique, mais c'est pas le genre de gars à faire des affaires de même.
Il a complètement perdu le contrôle. C'est le meilleur joueur pour les Browns, donc ça va faire extrêmement mal à son équipe. C'est le meilleur joueur de l'équipe, là, sans discussion possible, selon moi. Même si il y a plus de gros noms en attaque, Miles Garrett est le meilleur joueur.
Le gars qui a le plus d'impact dans son vestiaire. D'ailleurs, on l'a vu pendant le match jeudi soir, la ligne offensive des Steelers n'avait aucune réponse pour ce gars-là.
Tu peux pas l'échapper comme ça mentalement. Tu te fais mal à toi, bien sûr, mais surtout, tu mets ton équipe dans une position insoutenable. Ils vont être sans, je le répète, leur meilleur joueur, probablement pour un bout. J'ai hâte de voir la NFL comment elle va réagir, mais ça vaut une suspension lourde. Tu peux pas faire ça. Faut que tu en fasses un exemple, honnêtement. Tu sais, si tu te fais une petite tape ses doigts un match ou deux, écoute, il y en a plein qui
se... ils vont se dire, c'est le party, on peut faire ce qu'on veut.
Ça peut pas être un buffet, là.
Non, je me reviens du côté du John S.C. Qu'est-ce que tu vois comme suspension? Qu'est-ce qui ressort dans ta tête de ce jeu du jeudi soir qui avait juste pas de bon sens?
Ben, je retiens que, un, les Browns ne sont même pas capables de gagner sur le sens du monde. Écoute, le match est terminé. Qu'est-ce qu'il s'en va faire à plaquer le carrière? Ça, c'est correct, mais rester dessus. C'était sûr qu'il allait arriver quelque chose. Juste le fait de rester par-dessus un carrière, ben, c'est sûr que la ligne à l'attaque va le défendre immédiatement.
Automatiquement.
Et là, en plus, tu prends son casque puis tu le frappes avec. Ben, je veux dire, c'était certain qu'il allait arriver un échauffouré par la suite. Et je blâme aucunement la ligne à l'attaque des Steelers. C'est tout à fait normal de vouloir défendre son carrière.
Honorable, même.
Ben oui, tout à fait. Tu te dois de faire ça, là. Surtout dans une situation puis un contexte comme celui-là. Très difficile à dire qu'est-ce qui est passé dans la tête de Miles Garrett, honnêtement. Mais pour moi, c'est définitif. C'est assurément qu'il faut que tu lui donnes la saison. Écoute, je vais juste regarder un petit peu les suspensions.
Ouais, des suspensions similaires, là, parce qu'il y en a eu dans le passé.
Ouais, ben, t'as eu les Redskins avec Albert Ainsworth, tu te rappelles qu'il avait pilé sur un adversaire? Lui, il avait reçu 5 matchs.
Je pense qu'il était avec les Titans à cette époque-là.
Je pense que t'as raison, mais en tout cas, s'entend.
C'était affreux.
Il avait décidé de piler sur son adversaire qui était au sol. Il avait reçu 5 matchs. Moi, je pense que ce que Garrett a fait, c'est pire encore. Donc, si lui a eu 5 matchs, ben écoute, tu lui donnes 6 la saison. Et si par miracle, les Browns feraient les playoffs, moi, je le suspendrais pour la durée d'entièreté.
Oh, donc ça serait une suspension pour le reste de l'année, incluant les séries éliminatoires.
Tout à fait. Moi, je pense qu'écoute, il n'y a pas d'affaires sur un terrain de la NFL jusqu'à la fin de la saison cette année, au moins, qu'il aille un petit peu réfléchir sur les ajustements, comment contrôler ses actions, tout simplement.
Son humeur.
Hey, je vous disais, moi, pour moi, c'était le meilleur joueur des Browns, mais je pense qu'il fallait le mettre dans discussion au titre de joueur défensif de l'année. Je dis pas qu'il héritait de l'honneur, mais il était dans la conversation.
On pouvait en discuter. Ben, c'était impressionnant de le voir aller jeudi soir, un match au niveau sport. Là, la ligne défensive était en feu, puis le garde à gauche des Steelers se faisait prendre pour des holdings parce qu'il était pas capable de le contrôler. Mais là, ce superbe arsenal n'est plus sur le terrain pour les Browns.
Les Browns, cette année, qui ont un gros problème avec la discipline, c'est un des clubs, sinon le club le plus puni de la Ligue. On a vu routinièrement, là, de semaine en semaine, des 10, 11, 12 punitions par match. Est-ce qu'ils sont pas en train de devenir un peu les nouveaux Bengals?
Ça, c'est pas une bonne comparaison.
Ils sont pas capables de gagner, ils sont pas capables de perdre avec honneur. Là, ils pètent les plombs un peu, comme, tu sais, on ne va pas se baser sur un incident. Là. Comme on le disait tantôt, Myles Garrett, habituellement, c'est pas un joueur salaud.
J'en ai en plus. Ce qui est mauvais pour les Browns, c'est qu'on va perdre ce joueur-là, mais là, on ne parle pas de la victoire des Browns aujourd'hui. Là.
Non.
C'est-à-dire que les Browns ont gagné un gros match pour leur... Ils peuvent espérer encore entrer en série, mais là, on parle pas de ça. Aujourd'hui, on parle du joueur idiot. Là.
Du joueur idiot, puis honnêtement, sans Myles Garrett, je donne... aucune chance aux Browns de faire les séries. Là. Ça vient de...
Ça vient sceller l'issue.
Ouais, je pense que oui. Et honnêtement, il sera pas le seul pour moi à être suspendu. Moi, je suspendrais aussi le joueur de ligne défensive, Larry Ogunjobi, qui est après le... Après, je sais pas si vous avez vu, une fois que Myles Garrett a décidé de swinguer tout simplement en bon français, le casse sur Mason Rudolph. Un petit peu après, Mason Rudolph, il est dans la zone des buts, pas de casse. Puis lui, le joueur défensif, Ogunjobi, décide d'aller le frapper sans aucune raison. Donc, écoute, c'était pas le plus grand contact de l'histoire. Mais je veux dire, il y a-tu quoi de plus jaune aussi? Là, je veux dire, le gars, il vient de se faire frapper avec un casque. Puis l'autre... Je vais aller en rajouter une couche, certain. Lui aussi, un match ou deux là, de suspension, je pense que ça ferait pas de tort. Et le seul que je vois peut-être...
Du côté des Steelers.
Du côté des Steelers, c'est Pansé.
Ouais, Pansé, les coups de pied sur le casque, veut pas. On comprend qu'il défendait son corps,
ça me fait revenir un peu sur... Tu sais, tantôt, j'ai dit, c'était honorable qu'il aille défendre le corps. Oui. Ça, j'en démords pas, puis je change pas d'opinion, mais par contre, la façon
de s'y prendre.
Mais c'est normal de voir rouge aussi, oui. Mais écoute, en tout cas, moi, je pense aussi qu'il va écoper d'une suspension. Dans l'histoire, les gars, j'ai pas vu ça, on s'entend qu'on n'a pas vu ça souvent, là, des joueurs enlever le casque d'un adversaire
pour swinguer avec.
On penserait que c'est Adam Sandler dans évidemment Happy Gilmore, là, tu sais, qui avait enlevé son patin pour essayer de frapper un joueur. Mais écoute, c'est arrivé une fois de ce que j'ai vu là sur un peu les réseaux sociaux. Antonio Smith, un joueur de ligne défensive, avait enlevé le casque du joueur de ligne à l'attaque des Dolphins, Richie Incognito, pour essayer de le frapper. Mais tu vas me dire que le geste est la même chose, mais c'était pas pareil. C'était pas aussi évident, pis c'était pas aussi frappant ce qu'il avait fait. On dirait que c'était comme un peu dans le même geste. Il a arraché puis il a essayé de le swinguer, donc il y avait moins d'impact que ce que Garrett a fait hier.
Garrett, c'était vraiment délibéré de viser la tête.
Exact, aussi, c'était disgracieux, c'était vraiment disgracieux. Lui, dans le cas de Smith, il y a eu deux matchs préparatoires parce qu'il était en match pré-saison quand c'était arrivé. Donc, il y avait eu deux matchs de suspension des rencontres préparatoires et le match d'ouverture. Mais comme je dis, c'est pas la même chose. Et au niveau universitaire, écoute, tout le monde va se rappeler... il y avait eu une grosse bataille générale entre l'Université Miami et l'Université internationale de Floride. Et il y avait eu une bagarre générale. Il y avait eu plusieurs joueurs qui avaient été suspendus. Et dans cette bataille-là, il y avait plusieurs joueurs qui avaient leur casque dans les mains et qui frappaient avec leur casque sur des adversaires. Chic. C'est ce que j'avais vu de plus disgracieux. Mais écoute, on s'entend que le football, en général, c'est ça que j'aime pas non plus d'hier. C'est que ça donne des mauvaises lettres.
C'est pas beau pour le football.
C'est un œil au beurre noir pour un sport qui est quand même très propre en général sur le terrain.
Mais c'est pour ça que Goodell et la NFL doivent sévir parce qu'ils sont dans une ère où l'image est très contrôlée dans la NFL. Il y a eu toutes sortes de scandales sur et en dehors du terrain. Je pense que dans cette époque-là, dans le contexte actuel, la NFL va sévir plus sévèrement que ça a été le cas pour, par exemple, Ainsworth, dont on parlait tantôt.
En plus, le bon Garrett, il sait pas, puis il saura jamais, mais grâce à ses actions, il va avoir un statut spécial pour lui dans la chronique au bar.
Mais, tu sais, pour Myles Garrett aussi, c'est quelque chose qui, je voyais, des fois sur les réseaux sociaux, les gens peuvent être très durs, c'est, enlevez-moi ça à vie de la NFL, t'as peu.
Non.
Moi, je vois pas, nécessairement, là, c'est grave, puis ça aurait pu être plus grave aussi, hein, s'il frappe, Rudolph sur la tempe, là, écoute, ça aurait pu être très grave. Puis Rudolph, on sait qu'il y a eu une grave commotion
cette année, oui, oui.
En début de saison. Fait qu'en, on est, je pense qu'il a été chanceux de s'en tirer indemne, mais c'est un geste qui va le suivre toute sa carrière.
Exactement. Ça, c'est on va se souvenir de ça, pas tant pour les bons coups que pour ce coup-là.
Et dans les premiers matchs qu'il va rejouer contre les Steelers, il va falloir qu'il soit humble. Je vais le dire comme ça, parce que c'est sûr que la ligne à l'attaque des Steelers n'oubliera pas ce geste-là.
Bonne analyse, messieurs. On va prendre une petite pause pour ensuite continuer. On va parler de la saison potentielle de 17 matchs dans la NFL. Alors, de retour, et on parle de football et de bonnes nouvelles, c'est-à-dire que dès la saison 2021, on pourrait... C'est pas réglé, mais on pourrait avoir la saison de 17 matchs, donc un match de plus dans la NFL. Là, il semble que les discussions pour le renouvellement du contrat de travail se déroulent bien et que les propriétaires voulaient une saison de 18 matchs, les joueurs en voulaient pas pour des raisons de sécurité. Il semble qu'on pourrait avoir trouvé un genre de compromis. Je me retourne du côté de Stéphane. La saison de 17 matchs, qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, non, peut-être.
Comme amateur, honnêtement, personne ne va se plaindre d'avoir un match de plus, mais faut s'assurer que ce soit fait dans un contexte sécuritaire pour les joueurs. Ça, c'est la première des choses. Là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Réduire le calendrier préparatoire, ça, c'est la première.
C'est ce qui serait logique. Ce serait une saison de 3 matchs préparatoires et de 17 matchs de saison régulière.
Sauf que la plupart des bons joueurs ne jouent pas ces matchs préparatoires-là ou jouent très peu. Donc, qu'est-ce que ça change au niveau de leur sécurité? Je pense qu'il va falloir aussi instaurer un bail de plus, c'est-à-dire que peut-être vivre une
deux bails dans une saison.
Ça pourrait être bien pour soigner des bobos, permettre au corps de récupérer un petit peu. Ça serait un bon pas en ce sens. J'ai hâte de voir là, comment tout ça va être moulé. Là, on ne le sait pas encore pour l'instant.
Notamment l'enjeu, ben là, t'as une équipe qui va jouer un match de plus à la maison.
Ben,
logiquement, où ça serait des matchs internationaux.
Ouais, moi, c'est là que je vois. Oui, un point qui peut être très positif, c'est que chaque équipe pourrait être appelée à jouer un match en terrain neutre. T'sais, c'est-à-dire que ça peut être international, mais pas nécessairement à Londres. Là. Il y a beaucoup de projets là, qui se trament en ce moment pour jouer, par exemple, en Allemagne, en Chine. Il y a eu des matchs par le passé à Toronto, on le sait. Bon, il y a eu un fiasco cet été dans les matchs préparatoires à Winnipeg, mais ça veut pas dire qu'on peut pas se tourner vers d'autres marchés au Canada, tu sais. Imaginez un jour un match de la NFL de saison régulière à Montréal. Ce serait quand même
fantastique. Ça serait fou, hein?
Ce serait quelque chose d'assez spécial. Donc, il y a cet aspect-là où la NFL veut développer le marché international. Puis ça, le calendrier de 17 matchs pourrait permettre de le faire. Là, maintenant, ça va rallonger la saison. Évidemment, on va se ramasser avec un Super Bowl là, dans le coin de la mi-février environ.
Oui.
Il y a bien des dames qui seront pas heureuses de fêter la Saint-Valentin en regardant le gros match.
Oh, j'avais pas pensé à cet aspect clé-là.
Roger Goodell non plus. Mais écoutez, ça, c'est blague à part, là. Non, ça peut être très bon pour les amateurs. Moi, je vois pas nécessairement d'inconvénients, mais il faut s'assurer que les joueurs ont le temps et les moyens pour récupérer. Ça, c'est primordial parce que sinon, t'auras beau avoir 17 matchs, t'auras pas un meilleur spectacle.
John Lacy, la saison de 17 matchs, oui, non, peut-être.
Ben, fondamentalement, écoute, je trouve que Stéphane a bien fait.
Il a comme passé à la gratte.
Ouais, ouais, désolé, mon
Johnny. Je n'ai que des miettes à rajouter. Moi, je suis fondamentalement traditionnaliste un petit peu. Donc, j'aime le fait que il y a 16 matchs. Moi, j'aime
8 pour chaque équipe surtout, à la maison.
Surtout, là, il parle aussi de rajouter un match de série. Donc, il y aurait peut-être plus d'équipes en bas.
7 au lieu de 6 actuellement.
Ben, une ronde de plus, tout simplement.
Moi, c'est ça, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce qu'on ne l'a pas abordé, l'aspect de on parle de 14 équipes en série plutôt que 12.
Donc, on aurait une équipe en bail au lieu de deux.
Oui, exactement. C'est la formule qui serait privilégiée, là. Donc, toi, comment tu vois ça?
Ben, écoute, c'est sûr que si tu regardes la NFL puis tu regardes le circuit, tu dis que c'est un des circuits où il y a le plus de parité dans la ligue. Les mauvaises langues diront non parce que c'est toujours les Pats en finale, mais en dehors de ça, c'est vrai que les matchs sont âprement disputés en général, puis il y a peut-être une ou deux équipes de plus qui mériteraient de faire les séries. Mais moi, je trouve que c'est aussi ça la beauté de la NFL. C'est que c'est dur de faire les séries.
La crème au on top, les autres, allez-vous en jouer au golf.
Exactement. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir. L'autre point aussi, tu l'as bien mentionné, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça du côté de la NFL? Ben, c'est évidemment, j'ai pas l'impression qu'ils veulent faire ça pour le spectacle. Ils veulent faire ça pour, évidemment, s'en mettre plus d'argent dans les poches.
Ils en font pas assez.
C'est le circuit présentement qui fait le plus d'argent. C'est 17 milliards de dollars par année.
US, précision.
Puis attends, on s'apprête à renégocier des deals télé là, dans les prochains mois, prochaines années. Imaginez, ça va être malade.
Donc, la NFL, honnêtement, c'est une machine à imprimer de l'argent et clairement que ce n'est pas assez pour les propriétaires qui en veulent plus encore dans leur poche. Donc, moi, c'est ça qui me dérange un petit peu plus. Les vraies motivations de la NFL, tu as bien fait de mentionner la sécurité. Moi, si la sécurité des joueurs est présente, et pour moi, c'est évident que c'est les matchs préparatoires qui doivent écoper, et même les entraîneurs parlent que les matchs préparatoires, là, c'est trop long. Ils n'ont pas besoin de 4 matchs.
Non, trois, t'as amplement le temps de voir, OK, on l'envoie chez eux, lui, on le garde.
Tu peux même en sacrifier un autre. Moi, je pense que ça peut aller à 2 matchs préparatoires, mais les 2 matchs préparatoires, par contre, je pense que les joueurs plus importants vont jouer.
Les joueurs partants.
Les équipes aiment de plus en plus aussi la formule des pratiques conjointes là, dans les camps d'entraînement.
Beaucoup plus,
effectivement. C'est-à-dire que, par exemple, deux équipes géographiquement proches, par exemple, les Chiefs et les Rams peuvent se rejoindre sur le terrain, faire une coupe de pratique ensemble, ben, un contre l'autre, sans nécessairement là, de gros contacts. Ça favorise justement là, l'aspect sécurité au sens où justement il n'y a pas les contacts d'un match préparatoire. Tu peux faire jouer tes bons joueurs, tu peux évaluer tes jeunes aussi. Ça donne plus de liberté, je pense, aux équipes. C'est une formule qui est de plus en plus appréciée des entraîneurs, en tout cas. Là.
Souvent, ils font ça dans le cadre d'un match préparatoire, justement. Là. Il y a une pratique en début de semaine conjointe, puis plus tard dans la semaine, ils jouent un contre l'autre.
Ouais.
Johnny, vas-y.
Le dernier point, ben, c'est sûr que Stéphane, tu l'as bien mentionné. Pour moi, c'est évident aussi que la NFL cherche à ajouter d'autres revenus qui n'existent pas. Donc, tester le marché international, puis c'est quelque chose, moi, je pense qu'ils regardent un petit peu à côté, voir que la NBA commence à devenir mondiale, avec beaucoup de popularité en Chine, entre autres. Là, c'est sûr que tu vas me dire que ça a moins bien été avec le fiasco là, qui est arrivé là, avec le tweet du directeur gérant, là, qui en tout cas, peu importe, avec Taïwan. Mais c'est évident qu'ils essaient de développer quelque chose. Par contre, est-ce que c'est la formule? Jouer un match dans ces marchés-là ou est-ce que tu voudrais peut-être implanter un brand différent? Moi, je pense, entre autres, d'essayer de développer le football dans ces pays-là. C'est quelque chose qui, pour moi, est peut-être plus important encore qu'avoir seulement un match puis dire, regarde, c'est beau. Maintenant, vous êtes des fans. Je pense pas qu'on devient fan comme ça de la NFL. Je pense aussi qu'il faut implanter le football de façon internationale. Puis il y en a du football à l'international. Le monde ne pense pas, mais écoute, il y a des jeux, il y a des
compétitions internationales entre pays.
Championnats du monde. Puis dans les championnats du monde des moins de 18 ans, ben le Japon est là. Écoute, tu as plusieurs pays que tu ne penses pas. Les pays d'Europe sont très présents. Tranquillement, je pense que c'est en train de se faire, mais c'est là que je pense que la NFL devrait peut-être essayer de s'implanter de plus en plus.
Discussion fort intéressante, et là, on va prendre pas de pause, on s'en va direct dans le sujet suivant. Il y a un carrière qui court beaucoup, qui est en train de, je pense,
pente ascendante.
Hein, en pente ascendante, mais qui est en train de s'incrustrer peut-être, là, ou de se mettre la face dans la course. Au joueur le plus utile, je parle de Lamar Jackson. Johnny, Lamar Jackson, est-ce que, à ton point de vue, là, est un gars qui pourrait être le joueur le plus utile à la fin de l'année devant Aaron, devant Russell?
Oui, tout à fait. Puis c'est, il fait de façon, je dirais, tout à fait originale parce qu'il n'y aura pas les mêmes statistiques qu'un gars comme Russell Wilson.
Oui,
il faut que tu regardes les statistiques comme elles sont. Puis pour lui, ben, je pense qu'il faut l'évaluer comme un semi-porteur, semi-carrière, parce qu'écoute, il gagne tellement de verges au sol. Quoi. C'est du jamais vu dans la NFL.
Hey, le match du week-end dernier contre les Bengals, là, et, il a donné une clinique de comment courir la balle. Là.
Et même quand tu regardes, moi, je pense que le joueur qui est le plus proche de lui en termes de comparaison, c'est Michael Vick. Puis Michael Vick n'a absolument pas les mêmes chiffres au niveau de la course que Lamar Jackson. Par contre, Lamar Jackson profite du meilleur système. Je pense que dans le temps que Michael Vick, il n'y avait pas ce genre de système-là qui pouvait vraiment à 100% exploiter ses capacités athlétiques naturelles. Dans le cas de Lamar Jackson, ben on est rendu là. Faut donner beaucoup de crédit à John Harbaugh qui a bâti vraiment le système offensif autour de Lamar Jackson avec plusieurs... Il y a un personnel. Le personnel des Ravens au niveau offensif, c'est un personnel qui est complètement différent du reste de la NFL avec beaucoup d'ailiers rapprochés, de centre arrière.
Et on joue parfois à trois ailiers rapprochés.
Oh oui, puis même souvent.
C'est même plus jumbo, là. C'est une autre stratosphère. Là.
Exactement. C'est ça. C'est un système offensif qui est, je pense, qui amène une certaine révolution. C'est du jamais vu en termes XNO. Puis écoute, moi, je trouve ça. Je sais pas s'il va remporter le type de joueur le plus utile, mais je sais que c'est le fun à regarder. C'est le fun à voir les commentateurs défensifs à se creuser la tête pour essayer d'arrêter ce gars-là. La seule chose que je veux pas voir et qui pourrait arriver parce que tout le monde sait où est-ce que je m'en vais avec ça. Lamar Jackson, c'est un carrière qui court. Dans la NFL, on sait jamais quand est-ce que ça peut tourner au vinaigre rapidement avec une blessure.
Avec un gros coup de casse sur la tête. Stéphane, est-ce que Lamar pourrait être rendu on top pour la course du joueur le plus utile dans ta cour?
Dans ma cour, ça demeure Russell Wilson pour l'instant. Mais Lamar se rapproche très dangereusement puis il souffle les chauds dans le cou de Russell en ce moment.
Moi, je trouve que la grosse volée qu'ils ont donnée aux Pats il y a une couple de semaines, gros statement.
Pour moi, ça pèse beaucoup plus fort que les jeux spectaculaires qu'il a réussi contre les Bengals. Parce que
les Bengals, on s'entend que c'est pas un grand club.
Cela dit, son spin move était tellement beau, on raconte que Denis Savard est jaloux. Là. Mais honnêtement... oui, de plus en plus, on le voit. Moi, ce qui m'impressionne de Lamar Jackson, que je voyais pas au début de sa carrière l'an passé, là, c'est qu'il est bon contre les bonnes équipes. Ça, moi, l'année passée, c'est un point qui me faisait peur. Il est arrivé en série, la première bonne défensive qu'il a affrontée, celle des Chargers, il a très, très mal paru. Là, moi, je suis en train de me dire, au début de la saison, il affronte des clubs souvent ordinaires, il est bas, il paraît bien. J'avais hâte de le voir contre des gros clubs. Tu sais, puis tu regardes cette année encore, c'était un peu ça au début de l'année. Miami, Arizona, Cleveland, tu sais, c'était des clubs qui cherchaient beaucoup. Ils paraissaient extrêmement bien. Mais ce qu'il a fait dans les dernières semaines aux Patriots, oui, mais aux Seahawks aussi, rappelez-vous.
Faut pas oublier cette victoire dans l'Ouest.
Tu sais, il avait été les battre chez eux par 14 points. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça dans la NFL depuis des années. Là. C'est dur d'aller battre les Seahawks chez eux. Donc, pour ces performances-là contre les gros clubs, moi, ils commencent franchement à m'impressionner. Puis écoute, je regarde leur calendrier. Là. Dans les prochaines semaines, ils pognent évidemment les Texans dimanche. Mais ensuite, les Rams, les Niners, les Bills, ça va brasser dans le prochain mois. Je pense que dans un mois, on va savoir précisément ce que vaut Lamar Jackson. En ce moment, bon, moi, je suis obligé de faire mon mea culpa, les gars.
On l'a tout fait. On a tous douté de la situation, là, de ce carrière qui passe et qui surtout court. Là.
Moi, les Ravens, je les voyais pas en série. Je me disais, les coordonnateurs défensifs vont avoir eu une saison morte pour s'ajuster à son style échevelé un peu particulier. C'est pas le cas. Il déjoue les pronostics en ce moment, Lamar Jackson. Donc, chapeau de ce côté-là. Puis c'est pas juste un porteur de ballon. Il est capable de l'envoyer la balle dans le fond à Hollywood Brown. Il a un bras, là, un très bon bras. Maintenant, c'est de savoir est-ce que son jeu aérien peut être plus équilibré dans toutes les zones d'attaque. Mais écoute, c'est un jeune corps arrière. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il a encore amplement le temps de se développer. Je pense qu'on est loin d'avoir vu le plafond, mais comme Jean le disait, puis c'est important de le préciser, ça peut être un grand joueur à long terme, comme ça peut être un court flash dans le temps à cause...
En raison des blessures. Oui, Johnny?
Je vais juste peut-être rajouter au niveau statistique. Ce qui me surprend, c'est des fois, c'est son taux de passe complété. Moi, je m'attendais. C'est ça qu'il fallait qu'il travaille. Puis, écoute, force est d'admettre que cette année, il fait le boulot là-dessus. Là. Ouais. Écoute, il y a deux matchs qu'il y a un QB rating parfait. On parle d'un gars qui court avec le ballon, mais qui est capable de lancer aussi. Là. Ouais. Et c'est ça qui est, je pense, qui est vraiment dérangeant. Au niveau de l'attaque au sol aussi, honnêtement, il y a des stats de porteur de ballon. Là. On va arrêter de se casser la tête. Il y a eu un match où il a couru pour 6 verges contre les Dolphins. Il avait quitté le match de bonne heure, puis ils ont tellement donné une volée aux Dolphins en début de saison. Okay, ils n'ont pas été obligés de le faire courir. Par la suite, 46 verges contre les Chiefs. Et là, écoute, t'as 3 matchs de plus de 100 verges. 116, 152, 120 verges. Écoute, c'est incroyable. Là. On parle d'un carrière dans la NFL. C'est, selon moi, c'est du jamais vu. Et on va voir où est-ce que tout ça va se rendre. Une chose est sûre, si par contre Lamar Jackson se blesse, peu importe, les Ravens vont être dans le trouble. Parce que là, ils vont se ramasser avec un réserviste qui sera absolument pas dans la bonne attaque. Tu comprends? Et si tu changes d'attaque, tu n'auras pas le bon personnel.
C'est Griffin là-bas, le... Ouais. Griffin de Third.
Peut-être qu'il pourrait effectivement...
Probablement, d'ailleurs.
C'est un carrière athlétique, mais c'est un carrière qui a quand même eu une grosse blessure.
Niveau du genou, oui, d'ailleurs. Donc, et d'ailleurs, la semaine passée, il y a une image qui circulait sur les réseaux sociaux. Il y a un jeu dans le match contre les Bengals. Ouais. Ils ont aligné 3 gagnants du trophée Heisman.
Mark
Ingram, Griffin et l'ami Jackson.
Ouais, c'est beau à voir.
C'était quand même intéressant.
Mais juste un dernier point là-dessus, je le fais vite. On a donné beaucoup de crédit à John Harbaugh avec raison parce qu'il s'est adapté à Lamar Jackson. Il n'a pas demandé à Lamar Jackson de s'adapter aux Ravens. Ça, c'est très bien. Mais je veux saluer aussi le travail du coach offensif Greg Roman. Honnêtement, là, un boulot extraordinaire depuis plusieurs années avec ce genre de corps arrière-là dans la NFL. Faut penser aux années de Kaepernick à San Francisco. C'est lui qui était là. C'est lui qui a présidé un peu tout le changement offensif des Niners. S'est amené à Buffalo après. C'est lui qui a tiré le meilleur de Tyrod Taylor. Tu sais, il faut le faire quand même. Tyrod Taylor, qui sera pas passé à l'histoire comme un grand corps arrière, on s'entend.
No.
Il a quand même soutiré des belles performances de son côté. Puis il s'amène à Baltimore, fait la même chose avec Lamar Jackson. Je pense que ça mérite quand même d'être souligné.
Les boys, on n'arrête pas d'être intelligents. T'as-tu quoi? Vas-y, journée, vas-y.
Ben, tout ce que j'allais dire aussi, c'est peut-être que là, pour l'instant, c'est nouveau aussi, affronter les Ravens. C'est pas quelque chose que les commentateurs défensifs sont habitués, mais ça reste que la NFL et la Ligue, selon moi, qui s'adaptent le plus vite de tous les circuits sportifs.
Il y a quelqu'un, quelque part, qui va trouver la
recette. Je dirais pas une recette, mais au moins diminuer un peu ce qui se passe présentement. Parce qu'aussi, au niveau de l'efficacité de l'attaque, c'est pas juste Lamar Jackson. La meilleure attaque de la NFL, c'est pas mal les Ravens.
Hey, ils marquent 33,3 points par match.
Point barre.
On est rendu au niveau des Rams de 2017-2018. C'est quand même une grosse attaque.
C'est de la grosse statistique. Mais si on va prendre une petite pause et ensuite on s'en va aux prédictions de la semaine.
I got news for you, buddy. We're gonna win the game. I guarantee it. I guarantee it. I guarantee it.
Enough said.
De retour, messieurs, la semaine passée encore plusieurs surprises. On a fait des prédictions audacieuses qui ont marché. Certaines, on a eu de l'air fou. Et il y en a une qu'on... Moi, je dirais pas qu'on a eu de l'air fou, mais personne n'avait vu venir. Les Falcons, un club pourri qui s'en va chez les Saints et qui les explose. Y a-tu quelqu'un qui avait vu venir ça? Pantoute. Et on va recommencer avec les Falcons cette semaine. Falcons qui visitent les Panthers. John ici, est-ce que les Falcons vont en coller 2 de suite?
Non.
Je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que c'est un accident de parcours.
Ben, on va voir. Écoute, ça reste que les Falcons, on l'a vu, ils sont talentueux.
Ils sont capables.
Ils sont capables. Mais je pense que aller jouer en Caroline, C'est pas facile pour nécessairement personne. Les Panthers sont toujours, je pense, difficiles à sortir à la maison. Deux gros matchs sur la route de suite pour les Falcons, je trouve que ça fait beaucoup. Puis honnêtement, je pense que les Panthers vont encore une fois être en mesure d'établir le jeu de Christian McCaffrey. Puis ils vont être en mesure de remporter ce match-là.
J'y vais avec une victoire des Panthers aussi. Steph?
Moi, je vois la semaine passée comme une simple anomalie. Tu sais, ça arrivait pas. Les Falcons, écoute...
Et ça arrive dans la NFL. Puis c'est un match de division aussi. Hein?
Les matchs de division, les équipes saillissent solides.
Mais il y a deux éléments qu'ils ont fait gagner ce match-là. 6 sacs du corps, il y en avait 7 tout le reste de la saison avant.
50% de ta production dans un match, merci, bonsoir.
143 verges au sol, il y avait eu 100 verges au sol une seule fois cette année. Écoute,
c'est même pas leur partant Freeman qui a fait ça. C'était un backup que personne connaissait avant.
Ryan Hill.
Hill, exactement. Tu sais, fait que dans la NFL, il peut arriver n'importe quoi.
Tu peux reproduire ça. Les Falcons, on le disait depuis combien de temps, les gars? Ça peut être une semaine qu'ils vont se réveiller. Ils peuvent se réveiller cette semaine. Ah, ça se pourrait que. Tu sais, on le savait qu'ils ont l'alignement pour le faire, mais honnêtement, ils ont trop une mauvaise saison. C'est une anomalie. Je vais du côté des Panthers.
Cowboys qui visitent les Lions, j'y vais avec une victoire des Boys. John ici.
Ouais, les Lions aussi qui ont... écoute, Stafford ne sera pas en uniforme, fort probablement.
Fort probablement pas. Donc, cette équipe-là est maganée aussi. Là. Oui. Manque de talent à des positions importantes.
Donc, avec un... On l'a dit, mais ils sont incapables de courir aussi. Fait que là, tu vas affronter quand même une bonne défensive qui est capable de mettre de la pression. Je vois pas comment les Cowboys vont l'échapper. Je vois une victoire des Boys.
Stéphane.
Cowboys aussi. Écoute, si Stafford joue par miracle, ils ont une mince chance, les Lions. Mais sinon, ils sont tellement pas capables de courir avec le ballon. C'est décourageant. Puis défensivement, ils sont pas là du tout cette saison. Donc, Cowboys.
Les Jaguars qui visitent les Colts. Les Colts qui ont été pathétiques le week-end dernier. Défaite contre les Dolphins. Je vais quand même y aller avec une victoire des Colts. Il va y avoir un réveil quelconque. Johnny?
Je vais donner beaucoup de crédit au plan de match défensif des Dolphins. Par contre les Colts, eux, ils se sont dit la semaine dernière, on arrête le jeu au sol.
On va mettre ça dans les mains de Brian.
Exactement. Brian aussi. Brian Hoyer nous bat, mais tant mieux pour lui.
Just be it.
Il n'a pas été en mesure de le faire. Ceci étant dit, je pense pas que les Jaguars vont être en mesure de reproduire le même plan de match. J'ai l'impression que les Colts vont être capables de courir cette fois-ci. Victoire des Colts contre les Jags.
Steph!
Vous l'avez entendu, le seul balado en Amérique du Nord qui a donné du crédit aux Dolphins.
Ça, c'est y a aucun doute.
Et honnêtement, c'était mérité. Ils jouent bien dernièrement, il faut le dire. Là, on va arrêter de se moquer, là, de se payer leur tête. Ils jouent bien. Mais pour en revenir à nos Jaguars et nos Colts, le retour de Nick Foles, c'est un facteur intéressant dans ce match-là. Devrait fouetter, je pense, l'attaque des Jaguars. Écoute, Jacoby Brissett devrait revenir aussi pour les Colts. Ça fait d'eux clairement une meilleure équipe que ce qu'on a vu la semaine passée avec le pitoyable Brian Hoyer. Mais je pense qu'entre les deux, Foles va avoir un plus grand impact. J'ai hâte de voir ça. On l'a très peu vu cette année. On l'a vu quoi? Une séquence à l'attaque ou deux là, au pas premier plus. Match de la saison. Donc, Jacksonville, là, très serré. J'y vais avec une victoire des Jaguars.
Bills qui visite les Dolphins. Match de division. Les Dolphins jouent mieux. Je vais y aller. Il n'y aura pas 3 victoires de suite des Dolphins. Je vais avec les Bills. Johnny.
Écoute, tu l'as bien mentionné. C'est pas que je pense pas que les Dolphins sont capables de battre les Bills. Les Bills sont pas convaincants. On va s'entendre là-dessus. Mais je pense quand même que le match est plus important pour les Bills et ils vont s'être parlé un petit peu dans le blanc des yeux après une mauvaise performance à Cleveland. Ils devraient remporter ce match-là.
Stéphane.
J'y vais avec les Bills aussi, puis je pense que c'est le moment où on lâche lousse Devin Singletary, le porteur de ballon recrue. C'est le temps de le faire contre une défensive qui en arrache énormément contre la course. Puis ça, c'est un facteur que je comprends pas à Buffalo. Probablement que c'est une question de mauvaise protection de passe du côté de Singletary, mais il y a très peu de touches cette année. On parle de 8 portées par match seulement, puis il est très efficace quand il touche au ballon. C'est ça qui est surprenant. Il fait le long gain, il est bon par la passe, il est bon au sol. Je pense que c'est le match où on pourrait vraiment le voir faire une différence.
Texans qui visite les Ravens, un des bons matchs de la séquence des matchs d'une heure. Johnny, est-ce que le show, le Lamar Jackson show se poursuit du côté des Ravens?
Écoute, j'ai longuement regardé ce match-là. J'aime le fait que les Texans sont reposés, arrivent en contrôle. Ils vont avoir eu du temps pour se préparer. Ils seront pas en mesure d'arrêter Lamar Jackson, mais je pense qu'ils vont être en mesure de peut-être le contrôler. Et faut pas oublier une chose, si Lamar Jackson est très solide, ben on oublie Monsieur Watson avec les Texans.
Excellente saison aussi.
Excellente saison. Et lui aussi doit être considéré au titre de joueur le plus utile de la NFL. Donc, je vois une victoire des Texans.
Oh, on the road!
En visite à Baltimore, je vois qu'il y a une petite surprise.
On va y aller avec le souhait du partisan. Une victoire des Texans. Stéphane?
Je reste avec les Ravens, mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment pas évident. Ça va être de toute beauté, ce match-là. Je pense qu'il va avoir des points à la tonne. J'ai l'impression qu'au terme, rendu à lundi matin, ça va être de ce match-là dont tout le monde va parler. C'est le feeling.
C'est fort possible. Et pour le match, j'ai eu un avertissement.
Wow!
Ça a l'air qu'il va y avoir beaucoup de chevilles brisées de joueurs défensifs sur le terrain qui vont essayer de plaquer deux carrières qui sont des savons, on va se le dire. Lamar Jackson et Deshaun Watson.
Après les alertes météo, les alertes médicales.
Exactement. Les alertes des chevilles. Broncos qui visitent les Vikings. John ici, est-ce que les Vikings, avant d'aller en congé pour une petite semaine, vont s'occuper des Broncos?
Écoute, les Broncos vont arriver là. Puis ils vont être... Non, pas vraiment. Ça va être les Vikings qui vont les battre. Les Mauves devraient... En même temps, ils m'ont vraiment impressionné contre les Cowboys. J'espère juste qu'ils n'auront pas nécessairement une petite descente là, avant d'aller chercher le bail. Mais ils jouent du très, très bon football. Et l'attaque est vraiment difficile à arrêter. Dalvin Cook. Mais j'ai l'impression aussi que Kirk Cousins est plus en contrôle de cette attaque-là qu'il ne l'a jamais été. Il a l'air vraiment de savoir qu'est-ce qu'il fait. Et si, par malheur, l'équipe adverse met un peu trop de personnel au niveau pour arrêter
le sol,
Dalvin Cook, ben, il dit, y a pas de problème, je suis capable de lancer. Puis on a des bons receveurs. Et si je me trompe pas, est-ce qu'Adam Thielen est de retour aussi dans ce match-là?
Pas sûr, il y a des doutes.
Un 50-50 dans le cas
d'Adam Thielen. Ben écoute, peu importe, je prends les Vikings.
Mais ça donne du crédit encore plus à Cousins parce qu'il joue bien dans une séquence où Thielen n'est pas là. Pas sûr qu'on s'attendait à ça lorsque Thielen est tombé au combat là, il y a quelques semaines, honnêtement.
Puis parle-moi de ça, un carrière qui a reçu... On va lui donner un peu d'amour là, à Kirk.
Ah non, ce gars-là s'est fait ramasser dans les médias par ses propres coéquipiers en début d'année, puis c'était pas propre.
Puis depuis qu'on l'a envoyé au bar, les gars, écoute, il joue du très gros football, mais moi, j'allais plus dire aussi, depuis qu'Adam Thielen l'a envoyé au pilori devant tout le monde, ben honnêtement, il a pas chialé, il a pas répondu à Thielen. Peut-être ça a brassé dans le vestiaire, ça on le saura jamais, mais il a fait ce qu'il avait à faire, puis il est en train de montrer qu'il peut-être, possiblement, amener les Mauves au terrain promis, messieurs.
De la série, des séries éliminatoires. Moi, je vais avec une victoire des Vikings aussi, Steph.
J'y vais avec les Vikings qui sont, en passant, je vais juste compléter parce que Johnny t'a très bien résumé leur saison. C'est la seule équipe qui est toujours invaincue à la maison dans la conférence nationale. Ils jouent extrêmement bien au Minnesota.
C'est tellement pas, c'est pas négatif, là, parce qu'à la maison, ils jouent vraiment, vraiment, vraiment bien.
Oui, puis depuis qu'ils ont leur nouveau stade, il s'est créé une espèce d'ambiance là-bas. On le voit avec le fameux skull à l'européenne. Là. C'est de toute beauté de voir ça. Il y a de l'ambiance, c'est surchauffé. Il y a quelque chose qui s'est produit au Minnesota, alors que dans bien des marchés, on dit il y a un nouveau stade, on dirait que ça a tué l'ambiance d'avant. C'est l'effet contraire qui s'est produit là-bas. Le club joue vraiment très bien à la maison.
Ben, il fait, tu sais, contrairement à l'équipe universitaire qui joue à l'extérieur, juste de jouer en dedans, ça doit déjà être...
Ils jouent du bon football au Minnesota, hein, parlant du club.
Oui. D'ailleurs, t'en avais parlé la semaine dernière. Ils ont remporté le match.
Gros upset face à Penn State. Donc, on continue de les suivre.
Une petite coupe des ordures, messieurs. Les Jets qui visitent les Redskins. Et honnêtement, c'est un match important pour la course au first pick, là, à la fin de l'année. Moi, je vais avec une victoire des Redskins.
Écoute, c'est fort possible
que le moins pire gagne.
Exactement, John, de ton côté.
J'ai les Jets, étonnamment, mais c'est possible. Du côté des Redskins, faut pas oublier que Darius Guys va être de retour. Donc, ça va être.
Moi, j'ai hâte de le voir, ce gars-là. Ça fait des années que tu m'en parles, tu me dis, il est bon, ce gars-là. Là.
Mais il est très bon, mais est-ce qu'il commence à être trop magané? Il y a eu beaucoup de blessures. De grosses blessures. Écoute, on va voir.
Parce qu'on parlait de lui comme d'un mini Marshawn Lynch.
Là. Oui, honnêtement.
Son style est enragé.
Quand tu regardes ce qu'il avait fait là, avec les Tigers de LSU, honnêtement, c'est un gars qui est très, très difficile à plaquer. Donc, écoute, on va voir, mais. Il est de retour avec, moi, je pense qu'il n'y aura pas nécessairement la pole non plus.
Non, sur un système d'alternance.
Adrian Peterson va courir. C'est possible qu'il court dans la face des Jets, mais écoute, j'ai décidé que les Jets allaient gagner, point final.
Stéphane.
Écoute, t'as dit étonnamment les Jets, mais Matt aurait pu dire aussi étonnamment les Redskins.
Ah, il n'y a aucun doute.
C'est deux clubs qui. Il y a un club étonnamment qui va gagner ce match-là. C'est
ouais, ça qu'on devrait. À moins que ça soit la bonne vieille nulle, là, mais bon.
Ouais. Bon. Je me risquerai pas dans ce terrain-là, mais écoute, je vais te dire une chose. Oui, les Redskins courent avec le ballon. Par contre, ils sont pas capables de passer.
Non.
Le jeu aérien est vraiment le mauvais. Ils gagnent 169 verges par match. Très difficile. On a envoyé Dwayne Haskins, le jeune corps arrière, dans un contexte vraiment pas évident là, pour faire ses premières armes dans la NFL. Je pense que ça va continuer.
J'espère honnêtement qu'ils sont pas nécessairement en train de le brûler. C'est un carrière que j'aimais un petit peu avec les Buckeyes. Moi, j'aimais ce qu'il avait fait, mais il est très jeune. Là, tu vas dire, oui, il y a d'autres jeunes qui sont capables de mieux faire que lui, mais c'est pas tout le monde qui est au même point en même temps. Moi, j'ai l'impression qu'il avait besoin de temps, cette carrière-là. Puis là, ça a l'air difficile et pénible.
Il joue derrière l'une des pires lignes offensives de la Ligue
effectivement.
En ce moment. Là, ça,
alors, victoire des Jets?
Victoire des Jets, mais on le dit en très peu de confiance.
Étonnamment, il y a quelqu'un qui va gagner. Saints qui visite les Bucks, avant d'y aller vers les prédictions, les gars, peut-être un retour rapide sur Anthony Auclair a été opéré, sera prêt pour le début de la prochaine saison, à se demander où il sera. Est-ce que ce sera toujours avec Tampa Bay ou avec une autre équipe? Parce qu'il devient agent libre. Donc, je voulais juste peut-être faire une petite précision par rapport à ça. Donc, les Saints qui visitent les Bucks, Johnny, est-ce que les Saints se remettent de leur très mauvais match la semaine dernière et s'en vont battre les Bucks?
J'ai l'impression, je pense en plus, qu'ils ne seront pas contents.
Non, ils vont avoir faim, eux autres.
Je pense qu'ils vont avoir faim. Puis, offensivement, écoute... Depuis que Drew Brees est de retour, on s'entend, il n'y a pas de controverse de carrière, mais c'est quand même pas si facile que ça. Là. Il y a eu un match difficile la semaine passée contre les Falcons. Le match de son retour au jeu, il n'avait pas été extraordinaire. Je me rappelle plus exactement.
Contre les Cards?
Moi, j'ai l'impression que c'était contre les Cards. Ça avait pris du temps avant de décoller les Cards. Il n'y avait rien là, de... Tu disais, tu sais, des fois, tu regardes l'attaque des Saints... Puis, tu sais, c'est une machine bien huilée. Tout va pour le mieux. J'ai hâte de voir ça avec Breeze parce que depuis son retour, je trouve qu'on ne l'a pas vu encore. Et c'est peut-être là que ça va se produire.
Donc, victoire des Saints. Je penche du côté des Saints aussi. Est-ce que tu as un upset dans ta manche ici, Steph?
Non, pas d'upset, mais ça va être serré par contre. C'est ça le upset. Là,
ça va être un match serré.
Ben, au sens où, comme Johnny le mentionne, Breeze qui cherche encore un peu à retrouver tous ses moyens, je pense que ça va se faire éventuellement. Il faut lui donner un peu de temps. Mais deux grosses blessures chez les Saints qui sont survenues la semaine passée. Andrew Speed, le garde, ça aide pas en protection de passe. C'est clair, net et précis. Puis Marshawn Lattimore qui va rater un peu de temps en défensive, connaissait une saison vraiment phénoménale.
De type MVP defense, là.
Ben, c'est lui qui a tenu le fort vraiment en défensive là, quand Breeze a été absent puis qu'il a fallu gagner certains matchs vraiment pas très beaux où tu accordes très peu de points mais que tu en marques peu aussi. Donc Lattimore, ça pourrait faire mal.
Et du côté des Saints, je pense encore qu'ils avaient besoin d'un receveur numéro 2. Mm-hmm. Ils n'ont pas bougé. Lors du marché des échanges. Donc, écoute, c'est ça qui est ça, les gars.
Cards qui visite les 49ers, rappelons-nous le match du jeudi soir, je ne me trompe pas, les Cards n'avaient vraiment pas mal paru. On s'attendait à vraiment pire. Je vais y aller avec une victoire des Niners. Je pense qu'ils vont avoir faim après cette défaite, très serrée contre les Seahawks. J'y vais avec les 49ers, mais ça sera pas un blowout, ce match-là, je crois. John Essay.
Oui, du côté des Niners, je pense que l'allié rapproché est de retour aussi.
Kittle et Sanders, peut-être.
Sanders, je pense que c'est peut-être plus problématique, mais je sais que du côté de Kittle, ça devrait être sur le terrain. Et c'est une arme très importante pour les Niners. Je pense qu'ils vont remporter un match serré encore contre les Cards. Puis les Cards, je donne beaucoup de crédit au jeune carrière Kyler Murray, il fait bien.
Avec une O-line, on le dit souvent, pas convaincante.
Et un peu comme les Dolphins, je trouve qu'ils se battent, les Cards, et c'est pas une proie facile présentement. Donc, ça risque d'être un match serré.
Stéphane?
Niners, le danger dans ce match-là, c'est le traditionnel relâchement émotif après un gros, gros duel du lundi soir contre les Seahawks.
Hey, c'était-tu beau à voir ce game-là? Wow!
Probablement le meilleur match cette année.
Oui, je pense que oui. Puis moi, ce que j'aime des fois, c'est on pense à un match, le meilleur match, c'est un match offensif ou c'est une pétarade. Ça, c'était un vrai match tough où ce que ça s'est tapé dessus. La bataille des fronts a été incroyable. Il y a eu quand même des beaux jeux offensifs. C'était vraiment un beau match de football. Et Russell Wilson fait le boulot.
Encore une fois.
Donc, c'est ça. T'sais, exactement, tu as bien décrit le match, mais ça a laissé des séquelles. Courte semaine aussi, c'était un match du lundi. Les gens vont dire, ouais, une journée. Non, ça
non,
paraît,
non, ça paraît
dans
la NFL.
Dans une préparation pour un match de la NFL, c'est important. Donc, je peux pas faire autrement qu'y aller avec les Niners, mais j'apporte ce petit bémol-là. Faire attention au relâchement émotif après un match.
Tu sais, ce qu'on dit ici, les Cards gagneraient ce match-là, ce serait pas la plus grande surprise tous les deux.
Je tomberais pas en bas de ma chaise.
Non, exactement. Je tomberais peut-être en bas de ma chaise si les Bengals remportent un match contre les Raiders sur la route. C'est le prochain match dont on va jaser. Moi, je vais avec une victoire des Raiders. Les Bengals sont vraiment pas bons. Johnny.
Non seulement ils sont pas bons, mais c'est là la très grande différence avec les clubs mauvais qu'on
dont on parle, là, ouais.
Les Bengals, ils ne se battent pas. C'est un club qui a l'air d'avoir abandonné. Et c'est vraiment horrible présentement ce qui se passe à Cincinnati. Il y a rien de positif avec cette franchise-là.
C'est pas bon pour Zach Taylor, ça. Un entraîneur de première année, oui, mais écoute, quand ton équipe répond pas à ce point-là...
Tu sais, la semaine passée, ils ont refusé...
Ils ont give up, là.
Oh oui, vraiment, ils ont abandonné, ils ont refusé de se présenter physiquement. Puis c'est pas le premier match que c'est ça. Honnêtement, le seul bon match des Bengals, c'est au début de l'année contre les Seahawks.
Oui, exactement, t'as raison.
Après, ça a été la descente aux enfers. Et je vois pas comment les Bengals vont aller battre les Raiders, qui jouent avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité. J'ai l'impression qu'ils vont se faire brasser encore une fois dans le black hole, messieurs.
Donc, victoire des Raiders, moi aussi. Est-ce que tu as une surprise pour nous, Steph? Sinon...
La seule chance des Bengals de gagner ce match-là, c'est si on leur octroie une permission spéciale de jouer à 12 en défense.
OK, donc ça n'arrivera pas. Victoire des Raiders. Un des très bons matchs du week-end, ou en tout cas qu'on anticipe, Patriots qui visitent les Eagles, reprise d'un certain Super Bowl excitant des dernières années. Les Patriots ne reviennent pas d'une semaine de relâche, là?
Les Eagles aussi.
Moi, je dis que la semaine de pratique de on va y aller avec les Pats, moi. Je vais y aller avec les Pats. Johnny?
Moi, je vais y aller avec les mêmes gagnants du Super Bowl.
Oh.
Je vais avec une victoire des Eagles à la maison et je vais t'expliquer pourquoi.
On t'écoute, on est tous. Oui.
Ben, même si les Pats sont champions pour arrêter le jeu au sol, je pense que l'identité des Eagles est maintenant faite cette année. Ils veulent courir la balle avec intensité et utiliser évidemment le play action par la suite. Et c'est l'identité qu'ils avaient eue quand ils avaient remporté le Super Bowl. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Eagles ne regardent plus nécessairement l'adversaire. Ils disent, on va essayer d'exploiter la passe. Puis non. On va courir le ballon coûte que coûte. Et je pense qu'ils vont être en mesure de au moins se faire respecter contre les Pats de cette façon-là et devraient ouvrir le jeu à rien avec ça. Donc, victoire des Eagles. Et du côté des Pats, c'est pas la défensive que je questionne, c'est un petit peu l'attaque des Pats. Je trouve ça très difficile depuis le début de la saison. Point final, je pense pas que c'est l'attaque des Pats qu'on a connue. Mais par contre, écoute, on commence à arriver au mois de novembre. C'est le temps d'habitude que les Pats, là, ils se mettent dans un mode...
Alors, c'est pas le moment où les Pats disparaissent.
Non, vraiment pas. Donc, je pourrais l'avoir dans les dents.
OK, donc, j'y vais avec les Pats, victoire des Eagles pour le John S.C. Stéphane, viens nous casser ça.
Ouais, Johnny vient de me voler les mots de la bouche. J'allais dire, on arrive en novembre. Les Patriots, habituellement, commencent à sortir le rouleau compresseur. Cette année, il y a un point qui est différent, par contre. Ils sont incapables de courir avec le ballon.
Et ça va être dur contre les Eagles.
Ouais, d'avance, c'est toujours dur à courir contre les Eagles. Mais cette année, Sonny Michel n'est pas capable d'avancer. La ligne offensive, c'est peut-être la plus grosse lacune de l'équipe. Cela dit, pourquoi j'opte pour les Patriots personnellement? c'est le fait que la tertiaire des Eagles se fait dépecer cette année. Puis je pense que ça va être le genre de match où Brady va, de manière un peu chirurgicale, découper pas à pas le supplice de la goutte des Patriots va s'appliquer cette semaine. On l'a pas vu beaucoup cette année.
Non.
Je pense que c'est le retour du supplice de la goutte, les petites passes à James White dans le flanc, les petits hooks à Julian Edelman. Je pense que petit coup par petit coup, on va assassiner les Eagles lentement mais sûrement.
Et Mohamed Sanu est une très bonne acquisition.
Oh, on en a parlé là à la transition. Ah, il est-tu gros ce gars-là?
Ouais,
c'est une méchante pièce.
Ah, c'est une pièce d'homme, effectivement.
On continue nos prédictions. Et les gars, si on vous avait dit ce match-là du dimanche soir, on va arriver et on va parler des mauvais carrières, vous auriez dit, ouais, on va parler des Bears. Mais non, on pourrait aussi parler des Rams, deux clubs qui se posent des questions à la position de carrière présentement parce que le jeu est pas bon. On l'a vu le week-end dernier là, contre les Steelers. Goff est pas convaincant une seconde. Qui va être le moins pire, Johnny, finalement?
J'ai choisi les Rams à la maison, tout simplement parce que je crois pas que Trubisky... il a joué une bonne deuxième...
il a été correct.
Correct, là, mais il est, ouais, mais pour un pour lui, correct, c'est déjà bien. Là.
Oh, écoute, oui, il y a avec pas, la saison qu'il connaît.
Avec la saison exacte qu'il connaît. Je pense que honnêtement, les Rams vont encore une fois créer le chaos en défensive. Trubisky va avoir beaucoup de difficultés dans ce match-là. Je vois une victoire des Rams.
Je vais avec les Rams, mais j'avoue que c'est la prédiction la moins convaincante du week-end. Steph?
Écoute, qui va marquer des points dans ce match-là?
Ah, c'est très difficile à...
C'est la question que tout le monde se pose.
Ça risque de frapper fort en défensive de part et d'autre. Écoute, j'y vais avec les Rams, mais si tu me disais quel match tu désires éliminer en fin de semaine là, pour t'assurer, là, tu te donnes un mulligan. Là,
c'est celui-là.
Ce serait celui-là moi, que je choisirais parce que je suis incapable de voir quelle offensive va être capable d'avancer, de gagner des pouces.
Mais j'ai quand même un petit peu plus confiance en Jared Goff qu'en Mitch Trubisky.
Moi, j'ai surtout confiance au fait que le match se déroule pas à Chicago dans le froid puis dans
exact.
Le vent. C'est un facteur.
Non, j'ai l'impression que si le match avait été à Chicago, on aurait pas sauté sur les Bears.
Rappelez-vous l'an passé, en décembre, à quel point les Bears avaient été méchants avec les Rams. Jared Goff avait fait dur, ça avait aucun bon sens. Mais bon, j'y vais avec les Rams, là, mais je suis tellement pas convaincu.
Non, regardez, là, on fait une prédiction, mais on la fait parce qu'on est obligé, là. Le match du lundi soir, mesdames et messieurs, si vous voulez du football offensif, ça risque d'être votre match. Si je ne me trompe pas, ce match-là se joue à Mexico.
Et voilà.
Pas?
Sortez les sombreros.
Sortez
et
les sombreros. Et il va y avoir un match normalement cette année. Si je ne me trompe pas, l'année dernière, il y avait un enjeu de terrain.
Ouais.
On avait déplacé le match. Victoire des Chiefs ou des Chargers, John Essay.
Est-ce que le match a lieu là au stade là, qui est très haut là dans les en altitude?
Oui.
Le stade Azteca.
Azteca, exactement. Je cherchais le mot. Bien, merci Stéphane. Moi, je vois avec une légère surprise et je choisis les Chargers.
Ouh.
Je dirais pas légère surprise, non. C'est
une assez grosse
c'est
surprise.
C'est audacieux, Johnny.
Ouais, exact. Ben écoute, tout simplement parce que les Chargers ont une saison horrible et parlant d'horrible. Ben, c'est la même chose pour la défensive des Chiefs. Qui vont, selon
Quel
moi,
joke.
Vont donner beaucoup de points aux Chargers. Et la dernière semaine, Philip Rivers a été horrible contre les Raiders, mais c'est pas le cas de Gordon. Gordon, le porteur de ballon, a été très solide dans ce match-là. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont leur courir d'en face avec beaucoup de succès. Ils vont compter des points. Ça va être un match très offensif.
Johnny, tu n'as pas réussi à me convaincre, je vais avec une victoire des chefs, Stéphane.
Ah, écoute, honnêtement, ton point est bon. Gordon me fait peur dans ce match-là. Sincèrement, on a revu le vrai Melvin Gordon depuis une semaine ou deux. Je trouve qu'il court avec autorité, avec puissance.
Il a retrouvé son synchronisme.
Ben, je voyais pas ça, moi, depuis son retour de longue grève. Mais écoute, je sais que le passé n'est pas garant du futur, mais les Chiefs sont 23-2 dans leur division depuis 2015. Il y a une défaite là-dedans que c'est contre les Chargers l'an passé,
à Kansas City.
Écoute, c'est pas gagné, c'est juste une stats là, pour ceux qui aiment ce genre de chiffres. Mais je pense honnêtement que les Chiefs, ça va commencer à se redresser tranquillement. Je pense qu'ils vont prendre le bon côté d'ici la fin de la saison. On n'a pas vu le meilleur d'eux autres depuis 5-6 semaines. Il y a des blessés qui vont revenir. J'espère voir jouer Laurent Duvernay-Tardif en fin de semaine. Honnêtement, je serais pas si surpris d'un retour au jeu. Je pense que ça va stabiliser les choses sur la ligne à l'attaque tranquillement, pas vite. J'y vais avec une victoire des Chiefs.
Messieurs, on prend une petite pause et on s'en va à une chronique au bar spéciale, Mike Garrett. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. Alors, de retour à la chronique au bar. Et cette semaine, on fait ça express. On s'est entendu des animateurs. On envoie Miles Garrett, les trois. Et là, c'est le bar. Il est tout seul dans son bar. Il n'y a pas de service. On l'attache à quelque part. Puis, il reste là tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoute, c'est la moindre des choses. Écoute, il faut qu'il réfléchisse à son geste. Et il va avoir plusieurs bouteilles disponibles pour le faire.
Non, mais moi, c'est un bar à sec. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de service. On fait rien que l'attacher dans le bar.
Okay. Juste pour le tenter.
C'est ça, on va mettre des bouteilles vides sur le comptoir.
Mais je trouve ça bien. Ça va le forcer à vraiment faire une introspection profonde sur lui-même parce que sinon, il pourrait se ramasser la prochaine fois à la chronique en prison. Puis c'est pas ça qu'on veut pour Miles.
La chronique en prison, très, très bon. Messieurs, c'était encore une édition de la Zone payante excellente en votre compagnie. On va vous inviter à venir écouter notre section Fantasy et on va se reparler la semaine prochaine.